ラフトレ
Bonjour à toutes et à tous. À partir d'aujourd'hui, ce n'est plus 14 mais 28 jours que pourront prendre les pères au moment de la naissance de leur enfant. Comme l'a mis en avant le rapport de la commission présidée par Boris Cyrulnik, cet allongement du congé paternité permettra d'accroître la présence, la participation des deux parents lors des 1000 premiers jours de la vie de l'enfant qui sont absolument déterminants pour son développement.
Et il favorisera également l'égalité entre les femmes et les hommes puisqu'il permettra un meilleur partage des tâches domestiques qui restent encore largement réalisées par les femmes. Une inégalité qui se répercute ensuite dans leur vie professionnelle.
Cette mesure, elle constitue aussi une formidable opportunité pour les jeunes papas conjoints d'être davantage présents et de mieux accompagner les débuts dans la vie de leur enfant. Car oui, la présence du père, du conjoint, est capitale pour le bébé et il est primordial que les jeunes parents, et plus globalement le second parent, s'investissent et prennent leur place le plus tôt possible. C'est notamment la raison pour laquelle la première semaine de ce congé paternité sera obligatoire.
En favorisant la présence des pères dès les premières périodes de l'enfance, ce sont également les stéréotypes de genre, encore profondément enracinés dans notre société, que nous déconstruisons. En toile de fond, cette extension du congé paternité de 14 à 28 jours, c'est la culture de l'égalité en acte.
Cette réforme, qui rentre en vigueur aujourd'hui même, s'adresse aux salariés, mais aussi aux fonctionnaires, aux travailleurs indépendants ou aux agriculteurs. Et son indemnisation sera prise en charge par la Sécurité sociale.
Cette réforme est une avancée majeure qui est attendue depuis longtemps. Elle permettra à tout le monde d'être gagnant-gagnant à l'arrivée, que ce soit l'enfant, les pères et les femmes. Cette réforme, beaucoup en ont parlé, mais c'est ce gouvernement qui l'a mis en place.
Bonjour et bienvenue dans Jaftamer numéro 63 avec Stéphane depuis le Périgord. Jaftamer, l'émission sur la famille contemporaine via le regard des pères de l'association Équité Parentale. Alors, aujourd'hui nous avons commencé par un message commun d'Adrien Taquet et d'Elisa Moreno enregistré le 1er juillet 2021 car effectivement, vous avez vu, le congé paternel, le congé de paternité rentre en fonction maintenant et nous voulions le saluer.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Durant cette émission, nous aurons des nouvelles d'Arnaud et nous aborderons également avec M. Thierry Lavergne un sujet grave. Comment peut-on gérer les problèmes sérieux de pédophilie ou de violence qui peuvent arriver à nos enfants? Comment faut-il ensuite réagir? Comment les traiter? C'est un sujet lourd, mais qui fait partie de la panoplie à avoir de l'éducant. Parce que ça fait partie de la vie, cela peut se produire, et donc nous aborderons tout ceci. Le retour de la rubrique de la chanson de la semaine, avec un duo père-fils, que nous aimons beaucoup. Après les actualités, et après un petit spot, ne bougez pas, c'est tout de suite après ça.
Voici maintenant le témoignage de la semaine.
Pierre Durand de Dijon, que vous connaissez bien. Pierre, tu vas bien ?
Oui, je vais bien. Bonjour à tous.
Bonjour à tous, bonjour à toi. Je voudrais refaire un petit focus sur ce que nous appelons l'égalité homme-femme. Nous avons vu que la moyenne nationale en France pour demander une audience est de 5 à 6 mois. Et pour une audience qui, statistiquement, dure environ 13 minutes. Tu me parles de tes dossiers, toi, régulièrement, et tu me dis que dans ta région, dans ton département, la moyenne locale est aussi de 5 à 6 mois?
Ouais, on est dans ces délais-là, entre 5 à 6 mois. On va dire 4 à 6 mois, suivant les tribunaux.
D'accord, très bien. Et là, tu as un cas où ça s'est passé un petit peu différemment. Vas-y, explique-nous.
Voilà. Alors, le cas en question, c'est quand c'est le père qui saisit, puisque lui, il a saisi plusieurs fois, les délais, en général, il a un délai qui est à 5 mois. À peu près pour passer en audience. Et puis là, cette fois, c'est pas lui qui saisit, c'est madame qui saisit. Et sa requête, donc est-ce qu'elle a rempli, est signée du 7 juin, donc 2021. Donc on s'attend à une date qui se passe ultérieurement
à la rentrée.
Sont convoqués,
voilà. Oui, oui.
Voilà. Et ils sont oh bah non, on dans une requête en juin, on passe en octobre ou novembre.
D'accord.
Et puis là, bah non, la convocation elle est pour le 7 juillet.
Waouh.
Voilà. Donc express.
Et tu me dis le plus étonnant, c'est que le 24 juin, monsieur reçoit un email avec la requête envoyée deux semaines avant.
C'est ça. En fait, il a reçu donc madame lui a envoyé la requête par mail. Donc le matin, il reçoit un mail avec la requête et l'après-midi, le facteur lui amenait le courrier du tribunal.
Ah bah il devait être heureux, bonne journée pour lui. C'est qu'en fait,
ah,
madame.
Il était content, ouais.
Ah ouais, tu m'étonnes, il devait se sentir bien là. Donc en fait, madame saisit le 7 juin, ne lui dit pas, ne lui en parle pas. Par contre, une fois qu'elle reçoit son courrier, elle a dû recevoir son courrier un peu plus tôt que lui, et peut-être elle dit bah c'est bon, ça a été accordé. Oh, bah au fait, Arthur, Wilfred, là, bah écoute, c'est vrai, on se revoit le 7 juillet là tous les deux, et voilà ce que je demande. Et puis lui, dans la journée, il reçoit le papier du tribunal.
C'est ça. Bon, moi, je pense même qu'elle a dû même avoir la réponse du greffe avant. Elle a dû appeler le tribunal, le secrétaire du tribunal qu'on appelle le greffe. Et à mon avis, elle devait savoir la date depuis au moins une bonne semaine.
Alors, nous vous en parlons de cette affaire parce qu'on la suit depuis... toi, tu la suis depuis quelques années, hein, je crois, depuis 2020 au moins. Et nous en reparlerons quand le jugement sera rendu par rapport à cette audience. On dit rien avant pour pas influencer, pour pas que ce soit reconnaissable ni rien.
Voilà.
Mais la problématique est intéressante. Ça parle d'internat, ça parle d'école. On fera un point sur ça parce que ça intéresse à pas mal de monde quand tu auras le jugement. D'accord ?
Ok, pas de souci.
Merci, à plus tard. Merci.
Au revoir.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
RLP 102.3 avec aujourd'hui des nouvelles d'Arnaud. Alors Arnaud, pour résumer, s'est séparé avec son ex en janvier 2000 combien Arnaud ?
Janvier 2019.
Madame est partie en l'accusant de plein de choses évidemment absolument horribles. Il n'a pas pu voir son fils Loïc durant plusieurs mois. Son ex a fait preuve d'instabilité, a changé de département. Il a récupéré son Loïc. Il avait quel âge à l'époque là ? Est-ce que tu l'as récupéré avec la marque des 5 doigts sur la joue gauche ?
C'était l'année dernière, au mois de février 2020, il avait 2 ans.
Il avait 2 ans, à la suite de ça, placement dans un foyer, arrivée du Covid, fermeture du foyer, première famille d'accueil, deuxième famille d'accueil, troisième famille d'accueil, impossible de le voir, gros bazar, gros pataquès, énième famille d'accueil, je crois, en septembre dernier. Les services sociaux qui commencent à dire que madame déconne à plein tube et que tu serais peut-être beaucoup mieux pour élever ton garçon, sachant que tu avais déjà un enfant dont tu as la garde d'une union préalable. Saisie du JAF, je crois, cet hiver, le juge d'affaires familiales qui t'attribue la garde de l'enfant, mais le juge des enfants, lui, par contre, continue le placement. Et puis là, je crois que j'ai rien oublié. Hein.
Non, bah, tout est là.
Voilà, tout est là. Et là, il y a 3 semaines, tu apprends que la dernière famille d'accueil ramène ton petit à l'ASE en disant « j'en veux plus » avec son sac, elle repart. L'ASE dit « aïe ». Elle te l'amène chez toi, ne sachant pas ce que tu en feras 48 heures plus tard. C'est bien ça ?
Oui, voilà. Oui, d'accord. Voilà, c'est tout à fait ça.
Eh bien, vas-y, dis-nous ce qui s'est passé après.
Alors, ce qui s'est passé, c'est que du lendemain que j'ai dû aller chercher mon fils, faire ce grand déplacement pour aller chercher mon enfant, j'ai eu la nouvelle ordonnance du juge qui dit que j'ai un placement à domicile jusqu'à nouvel ordre, c'est-à-dire au prochain passage du tribunal, le 23 juillet, devant le juge des enfants de ma circonscription.
Donc, attends, il y a eu une ordonnance du juge qui a été faite en moins de 24 heures ?
Oui, tout à fait. Du jeudi, j'ai eu mon fils. Le lendemain matin, l'ordonnance a été éditée et envoyée à l'éducateur de l'AEMO et au service de l'ASE.
Mais c'est allé super vite.
Oui, tout à fait. J'ai même été étonné de la rapidité de réaction du juge de ma circonscription.
D'accord. Donc là, maintenant, Loïc est chez toi.
Oui, tout à fait.
Tu m'as dit qu'il avait des gros soucis au préalable, d'hyperactivité, de crise. Qu'est-ce qu'il disait ? Il avait des cauchemars durant la nuit. Ça traduisait comment ? Qu'est-ce qui n'allait pas ?
Alors, d'après le rapport du CMP, il faisait entre 4 et 5 terreurs nocturnes par nuit chez l'assistante maternelle, chose qu'il n'en fait pas du tout chez moi. Quand il prenait son bain, il s'amusait pas du tout dans son bain, alors qu'ici, il se croirait à la piscine. Et au niveau des repas, ça se passe très bien. Bon, mis à part peut-être ses crises de temps en temps, parce que bon, il est frustré à chaque fois qu'on lui dit non. Mais sinon, à part ça, je le trouve beaucoup plus posé depuis qu'il est chez moi.
Ouais, et surtout qu'il est avec son frère. Il a été très brinque-ballé durant un an et demi, là, quand même, hein, le petit. Hein.
Oui, tout à fait.
Ouais. Donc là, en fait, la bonne nouvelle, c'est que pour l'instant, tu as ton enfant.
Oui.
Tu as les deux frères qui sont ensemble.
Oui, et j'ai eu l'accord pour inscrire Loïc à l'école de ma commune. Il est déjà inscrit pour aller à l'école de chez moi pour le mois de septembre.
Et ça sent bon, tout ça?
Oui, ça sent bon, mais bon, je suis comme ça, Thomas, je crois que ce que je vois.
Oui, parce qu'il se passe tellement de rebondissements, et puis sans vouloir critiquer les gens, hein, c'est un système qu'on va critiquer, le travail est parfois tellement médiocre autour de nos gosses qu'on s'attend parfois au pire, hein, on ne sait jamais ce qui va nous arriver. Mais en attendant, tu vois, ton histoire, on l'a su depuis le début, en fait, hein, c'est aussi pour ça que j'y reviens régulièrement, c'est qu'on a vraiment un conflit parental qui dégénère sur un placement avec des fausses accusations. Oui. Et il y a toi qui ne s'est jamais énervé, qui n'a jamais eu la main droite qui a tremblé, qui n'a jamais insulté personne. Et puis au bout du compte, ça mettra peut-être un an et demi, deux ans, mais tu es en train de récupérer ton gamin.
Oui, tout à fait. Et puis ce qu'il faut, c'est rester positif et ne pas chercher le conflit. Parce que le conflit, ce n'est pas moi qui le cherchais, c'était la maman qui m'empêchait de voir mon enfant. Elle utilisait malheureusement notre fils pour me faire du mal, en fin de compte, parce que depuis que j'ai mon enfant, elle avait des droits de visite médiatisés qu'elle a refusés parce que c'était médiatisé. Elle a eu d'autres droits de visite dont elle n'a pas été. Donc, pour moi, c'était uniquement pour me faire du mal de ne pas avoir mon enfant, d'avoir fait tout ça. Parce que si vraiment elle aimait son fils comme elle le disait, sans vouloir être méchant, elle aurait été voir son enfant, quelle que soit la distance qu'il y a. Moi, ça fait deux ans que je me déplace. Moi, j'ai jamais loupé un seul droit de visite et j'ai fait des déplacements toutes les semaines. Bah, tu connais plus ou moins mon parcours.
Oui, je sais que tu as sacrifié notamment des options professionnelles pour garder ta disponibilité pour tes enfants.
Voilà. Tout à fait, je n'ai pas renouvelé mon contrat de travail parce que ça amputait beaucoup sur mes droits de visite avec mon fils.
Tu trouves des solutions, tu as à les nourrir quand même, tu peux t'en occuper, tu es capable de les t'en occuper, voilà, d'accord.
Oui, voilà, il manque de rien, que ce soit de tendresse ou même dans leur assiette ou au niveau mobilier et sécurité, il y a tout ce qu'il faut.
Oui, alors ça c'est un truc aussi qu'on ne dit pas forcément assez, surtout nous. Au niveau des papas, hein, c'est une grande croyance, c'est qu'un enfant n'a pas besoin d'argent. Un enfant n'a pas besoin que le père ait une énorme réussite professionnelle. Un enfant, il a besoin en fait de son minimum vital, bien sûr, mais il a besoin d'attention et de chaleur. C'est de ça dont il a besoin. Il s'en fout que vous soyez cadre chez Total. Le gamin, il veut qu'on soit là pour le voir faire ses expériences et il veut notre épaule. C'est ça dont il a besoin.
Oui, voilà. Voilà. D'accord. Et là, depuis que mon fils est là, j'ai la maman qui a repris contact avec moi pour essayer d'avoir des nouvelles. Donc, j'ai voulu cadrer un peu les choses. Et avec l'accord de l'ASE, elle a la possibilité de m'appeler une à deux fois par semaine pour pouvoir prendre des nouvelles du petit, en attendant d'avoir ses droits de visite médiatisés.
Bon, ça, c'est sage. C'est bien que Loïc puisse parler à sa maman une ou deux fois par semaine et la voir de temps en temps. Tu trouves ça bien, toi ?
Oui, ben moi je me suis jamais opposé à ça, mais j'ai quand même voulu poser un cadre et ne pas être dans l'illégalité. Oui, parce que si, par exemple, elle n'aurait pas eu le droit de contact avec notre enfant comme d'autres enfants pourraient l'avoir, je ne voudrais pas être dans l'illégalité et perdre tout ce que j'ai fait.
Non, mais ce que je voulais dire, c'est que toi, en tant qu'éducant, tu trouves bien que ton fils puisse parler à sa mère.
Ah oui, tout à fait. Moi, il demande après sa mère. J'ai imprimé quelques photos de sa maman et je les ai accrochées au mur à côté de son lit parce qu'il demande quand même assez souvent après sa maman.
D'accord, ok. Très bien, c'est très bien. De souvenir à un moment donné, quand c'était compliqué, est-ce que ton ex te laissait parler à ton enfant ?
Parfois non, j'avais même des droits d'appel qui étaient notifiés sur jugement, dont elle ne respectait pas. Mais moi, elle m'appelle, je décroche, je fais pas comme si j'avais pas entendu le téléphone. Je sais que c'est pour parler à ma fille.
Voilà, j'en profite pour dire à tout le monde, c'est comme ça qu'il faut faire. Ça sert à rien d'être rancunier, ce qui passe avant tout, c'est l'intérêt de l'enfant. Ok.
Oui, voilà, c'est okay. Tout à fait ça.
Prochaine échéance, tu m'as dit le juge des enfants, fin juillet, d'accord. Oui. On espère qu'il va confirmer ce qu'a dit le JAF. Et de toute façon, tu as un rapport de l'ASE qui est en ta faveur. Et juste tout pour savoir, fait. Là, depuis 2 semaines, ils sont venus te voir chez toi avec ton enfant ou t'es vraiment en autonomie libre?
J'ai une TISF qui intervient à mon domicile une fois par semaine pendant 3 heures et j'ai l'éducateur de l'AEMO qui est déjà venu une fois et il doit repasser lundi pour voir comment ça se passe et pour pouvoir aussi faire un pseudo-rapport pour le juge des enfants.
Et il se comporte bien avec toi ?
Oui, bah, il se comporte bien, il arrive à rester posé et au niveau de l'éducateur, c'est un éducateur que je connaissais déjà grâce à lui que j'avais récupéré mon premier enfant et voilà. J'ai voulu avoir le même éducateur, étant donné qu'il me connaît déjà, il sait déjà comment je procède. Bon, il ne connaissait pas mon fils Loïc.
D'accord, mais je veux dire, ils ne sont pas anti-père, ils ne sont pas en train de dire « Alors mon petit, tu préférais pas être chez ta mère ?» comme on a pu l'entendre parfois. Non, ils sont vraiment ouverts et ils sont neutres
non,
à mon égard.
Non, ils sont vraiment ouverts. Oui, voilà, ils sont neutres à mon égard. Il a sa façon de dire les choses aussi. Hein, s'il a envie
bien
de
sûr,
dire
«
Vous faites une connerie, vous faites une connerie. » Moi, je préfère une personne qui dit les choses
oui, et puis après, tu rectifies, voilà. C'est là.
Voilà, et puis rectifier les choses. Mmh. Ben, moi, comme j'ai dit, je ne me suis jamais opposé à ce que la maman voit son fils. Mmh. Comme là, dimanche, il est prévu qu'elle passe à la maison parce qu'elle doit signer les papiers pour l'inscription de l'école, sinon l'inscription sera refusée. Donc, elle doit passer dimanche et j'en ai parlé avec l'ASE, savoir si j'avais le droit de lui présenter le petit, parce que je voudrais rester dans les clous. Ils m'ont dit, il n'y a aucun souci, tant qu'il ne se passe rien de grave, c'est mieux que ça se passe comme ça, en bonne entente, plutôt que de voir chaque fois demander des autorisations à droite et à gauche.
C'est toujours bien pour tout le monde. Ok, bah, écoute, merci beaucoup et tiens-nous au courant pour cette décision que l'on espère positive pour toi à la fin du mois de juillet.
Oui, ben bah voilà, okay. Merci beaucoup.
Merci, au revoir Arnaud, au revoir.
Au revoir.
RLP,
Radio Libre en Périgord.
Thierry Lavergne, aujourd'hui sur RLP. T'as avec tout, monsieur Lavergne ?
Oui, oui, je suis là. Bonjour, bonjour.
Bonjour, bonjour. Pour la rubrique pédopsychiatrie et psychanalyse dans JAF ta mère, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet un peu compliqué, mais qui malheureusement fait partie de l'actualité. Nous allons parler de la pédophilie, qui veut dire en fait des gestes sexuels inappropriés auprès d'enfants en bas âge, hein, si j'ai bien résumé le contexte. Premièrement, quels sont les dégâts effectués sur un enfant qui aurait été confronté à des actes inappropriés, à un âge inapproprié. Et deuxièmement, comment on peut essayer de réparer tout cela?
Oui, ouf, c'est compliqué hein, cette question.
Oui, malheureusement.
Il y a des situations de tous ordres. Hein, voilà. Je dirais que, bizarrement et contrairement à ce qu'on croit, les situations où l'enfant est confronté à des actes inappropriés, à des actes pédophiliques, ce sont des situations souvent dans des mondes familiaux. Et les prédateurs sont moins fréquents que ce qu'on a tendance à croire. Donc déjà, c'est important de savoir que, quel qu'adulte qu'on soit, être à l'écoute de ce que peut dire un enfant est le meilleur service qu'on peut lui rendre.
Oui.
Et
oui.
Être à l'écoute de ce que peut dire un enfant, c'est souvent plus difficile qu'on ne le croit, parce qu'on a en soi une sorte d'interdit qui fait qu'on ne veut pas entendre des choses sales, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, hein, il y a plein d'autres mots, mais des choses désagréables à entendre, des choses sales, des choses qui vont salir l'enfant, on n'a pas envie de les entendre. Et quand on n'a pas envie d'entendre quelque chose, et bien souvent l'enfant ne va pas le dire, parce qu'il va finalement protéger la personne à qui il va protéger la personne des choses sales qu'il a à dire. Donc la première chose que je voudrais dire, c'est ça, c'est que il est important quand on est un professionnel, un parent, un beau-parent, enfin en tout cas en contact avec un enfant dont on se préoccupe, d'avoir l'oreille suffisamment ouverte pour pouvoir entendre les choses les plus étranges qu'il pourra nous confier. Après, vous me demandez quels dégâts ça peut faire pour un enfant. Ben, les dégâts, ils sont justement là. Par exemple, il y a dans cette impossibilité de dire certaines choses, ça va provoquer chez l'enfant le fait de ne pas s'autoriser à dire les choses qui sont les plus importantes pour lui. Et ça, c'est malheureusement quelque chose qui pourra rester toute sa vie. C'est-à-dire une sorte de blocage à pouvoir parler des choses les plus graves et sur lesquelles un tiers qui l'écoute pourrait l'aider, eh bien, ce blocage va être difficile à dépasser. Me demander aussi ce qu'on peut faire pour aider un enfant qui a verbalisé comme ça des difficultés. Alors, on parlait même de pédophilie, quelquefois il y a des contextes incestuels, hein, sans être passage à l'acte, hein, des choses qui sont simplement un enfant, simplement, si je puis dire, un enfant qui va être témoin de films à caractère pornographique ou devant lequel on va parler de manière très crue de sexualité ou des choses comme ça, des situations finalement assez choquantes pour un enfant, eh bien, qui va aider l'enfant, c'est qu'il y ait autour de lui un monde suffisamment sécur pour que il puisse parler avec une personne de confiance de ces ressentis difficiles qu'il a eus. Ça concerne d'ailleurs aussi la violence ou enfin d'autres domaines. Et le meilleur service à rendre à l'enfant, encore une fois, c'est d'être à son écoute. Quelquefois, être à son écoute ne suffit pas. Il faut quelquefois orienter cet enfant vers quelqu'un qui aura pour métier d'être à son écoute.
Mais avoir été victime, par exemple, ou alors avoir approché la sexualité trop tôt, on va le définir comme ça, je sais pas trop comment le formuler, mais je pense que vous allez comprendre, tout le monde comprendra. Est-ce que ça a des conséquences sur la future vie sentimentale, amoureuse et, espérons-le, familiale de cet enfant?
Ça peut avoir des conséquences, ça peut ne pas en avoir.
C'est la façon dont on va le gérer, en fait, qui sera importante.
C'est très individuel. Il y a des enfants qui sont résilients, des enfants qui ont vécu des choses affreuses et qui finalement arrivent à les dépasser et qui justement savent finalement après ce genre d'événement mieux gérer les relations avec les autres. Il y a des enfants qui au contraire vont se retrouver enfermés dans des situations de dépendance extrême et qui vont avoir tendance à répéter ce genre de situation pendant longtemps. Dans tous les cas, la façon d'en sortir, c'est d'être accompagné, mais d'être bien accompagné. Accompagné par des mesures juridiques lorsqu'il doit y en avoir, par des mesures psychothérapeutiques lorsqu'il doit y en avoir, enfin par toutes les mesures nécessaires. Accompagnement aussi au quotidien, par toutes les mesures qui font que l'enfant va retrouver un développement naturel qui va lui permettre de devenir un adulte épanoui.
D'accord. Vaste sujet, difficile au combien compliqué. Merci Monsieur Laverne, merci beaucoup.
À bientôt.
À bientôt. Merci, au revoir.
Voici maintenant la chanson de la semaine.
J'ai pas toujours trouvé les mots pour bercer tes rêves d'enfant. Ensemble on est devenus grands.
Le bon poids en double zéro, paralysé par ton amour, on s'apprivoise au jour le jour.
Gestes qui pouvaient soigner tes blessures, guider tes pas vers le futur.
À tous les signaux de détresse, dis comment j'aurais pu faire face, pris entre le feu et la glace.
Au-delà de nos différences, les coups de d'échanger nos silences.
Maintenant qu'on est face à face, on se ressemble sans pour cent. Comme si les battements de nos cœurs étaient sur la même longueur d'onde, les lignes de nos mains se confondent.
Tu me renvoies comme un miroir mes doutes et mes éclats de rire, la promesse d'un autre avenir. Ce qui reste en nous d'innocent, puisqu'on se comprend à présent.
Peu à peu la douleur s'efface, on n'en garde plus qu'une trace, comme une offense au temps qui passe.
Au-delà de nos différences, Et coups de gueule, des coups de sang, à force d'échanger nos silences. Maintenant qu'on est face à face, on se ressemble sans maintenant qu'on est face à face, on se ressemble 100%. Tous les deux 100%. Et tous les deux 100%. Tous les deux 100%. Tous les deux.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas la page Facebook, les pages Facebook de l'association, Association Équité Parentale, une page nationale pour toutes les grandes thématiques, et ensuite une page par département, le site internet équitéparentale.com. Nous nous reparlerons la semaine prochaine, comme d'habitude, le vendredi à 20h et le mercredi à 16h. Portez-vous bien et à la prochaine fois.
J'ai faim.